Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Elisabeth Borne a envoyé du pouvoir d'achat tous azimuts hier. On en sait un peu plus sur ce qui concernera les ménages modestes, les retraités, les automobilistes, les bénéficiaires des minima sociaux. Ce matin, sur BFM TV, Bruno Le Maire indique que l'État sera là pour, alors s'il ne le dit pas avec ces mots-là, mais nationaliser le pouvoir d'achat le temps qu'il faudra. Donc c'est clairement du whatever it takes, du quoi qu'il en coûte de la vie quotidienne. Et il parie sur le fait que l'inflation va commencer à refluer au début de l'année 2023. Enfin, à ce rythme-là, effectivement, nous avons une inflation inférieure à celle de nos voisins. Réjouissons-nous, ça, bon, la facture est salée. Et est-ce qu'on va pouvoir éviter un petit tournant d'austérité, peut-être par le levier de l'impôt, même dès l'automne qui vient? Ça se murmure, même si rien n'a évidemment été annoncé. On regardera ce rapport de Terra Nova qui désingue littéralement le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Il est signé Guillaume Anzo, qui joue un rôle clé autrefois dans le groupe Vivendi, mais qui fut également conseiller économique de François Mitterrand. Guillaume Anzo qui dit c'est quand même terrible, hein. À chaque fois qu'on fait des éditions, on est traité de libéral. Dès qu'on cherche les ressources d'un programme, on est traité de libéral. En fait, dès qu'on n'est pas d'accord, on est traité de libéral. Vous verrez la lecture que Guillaume Anzo fait du programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est vendredi qu'Emmanuel Macron va recevoir les partenaires sociaux sur son CNR. C'est l'une des nouveautés de ce quinquennat, le Conseil National de la Refondation. Peut-être qu'il les reçoit pour les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas voués à disparaître à cause de la naissance de ce nouveau conseil. On regardera les rémunérations des dirigeants. C'est la première fois que les assemblées générales des entreprises ont été marquées de manière dominante par la question de la rémunération des dirigeants et parfois le rejet de la rémunération des dirigeants. Or, je rappelle qu'en France, si elle est rejetée par les actionnaires, à ce moment-là, elle est rejetée. C'est pas comme les entreprises de droit néerlandais où la consultation des actionnaires n'est là que pour avis. Et puis, Agnès Pannier-Runacher n'exclut pas de renationaliser EDF. Il est clair qu'à moins de 9 euros le titre, quand il est rentré à 32 euros, qu'il a caracolé à 80, reprendre les quelques pourcents du capital d'EDF que l'État ne détient pas est quelque chose de financièrement accessible. Bonjour Nadine Levrato.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université Paris-Nanterre. Philippe Manière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Veille Solis Communication. Vous avez publié Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Si on disait un peu qui est Veille Solis Communication, chaque fois je dis ça, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas.
Ah, bah, c'est. Voilà, nous, on est un cabinet de conseil en communication stratégique. On conseille des entreprises, grandes et petites, en communication de crise, en conseil permanent, en communication judiciaire, etc. Enfin, tous les métiers de la communication stratégique.
Vous êtes dans les EHPAD, non?
On n'y est pas directement, mais on est indirectement sur le sujet.
Sylvain Réby, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, l'été Kousmi. Je vous donne les quelques éléments d'actualité, puis je vous laisse réagir. Donc, le chèque alimentation, vous l'oubliez. On ne va pas faire un chèque qui cible les produits bio-bobo. Non, ce sera un chèque, probablement de 150 euros par foyer modeste, auquel on ajoutera 100 euros par enfant de moins de 20 ans, comme on avait fait en urgence en 2020, versé en septembre, en une seule fois, directement crédité sur les comptes en banque. Les pensions de retraite vont prendre 4% le 9 août. Elles ont déjà pris 1,1% en janvier. Ça fera 5,1% sur l'ensemble de l'année. Les minima sociaux devraient également prendre 4%. On parle du minimum vieillesse, du RSA, de l'allocation adulte handicapé et des allocations familiales. Donc ça fera 5,8% de hausse sur l'ensemble de l'année, en ajoutant la revalorisation de près de 2% intervenue au mois d'avril. Les 18 centimes de ristourne par litre de carburant restent en place au mois d'août et même peut-être en septembre, tant que le dispositif suivant, le chèque carburant destiné aux gens qui roulent beaucoup pour des raisons professionnelles, qui ont des petits revenus et qui n'ont pas de transport en commun, tant que ce système complexe, équation à plusieurs entrées, n'existe pas, on maintient en place donc la ristourne de 18 centimes par litre. On verra quelle sera la hausse des APL, mais ce sera en octobre. On verra si les loyers continuent ou pas à suivre l'IRL, l'indice de référence des loyers, c'est l'un des sujets encore un petit peu flou, qui seront bien sûr les bénéficiaires de ce chèque inflation, probablement les 5 800 000 ménages qui ont déjà bénéficié du chèque énergie. C'était en 2021. On n'a pas d'addition, hein. On ne sait pas combien ça va coûter, mais cher. Et si effectivement on est sous les 6% d'inflation par rapport à des pays comme l'Espagne qui sont à 10, c'est bel et bien parce qu'il y a une intervention publique. Tout va bien, Philippe Manière?
Ah bah, c'est-à-dire que oui, enfin c'est une soviétisation progressive admirable, quoi. Je rigolais tout à l'heure en vous entendant mentionner le truc d'EDF, ça rappelait, vous savez, la fameuse phrase de Lénine, les soviets et l'électricité, quoi. C'est-à-dire que on est dans une espèce de collectivisation de tout et du reste, des revenus, des prix. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre en charge l'inflation par le budget? Enfin, c'est complètement dingue. C'est inédit, inexplicable, indéfendable, à mon avis. Ça ne fait que reporter le problème. Enfin, voilà, il y a une augmentation de l'inflation qui est d'ailleurs très largement la conséquence des actions publiques précédentes. Banque centrale et
oui, on est d'accord.
Et ça, budget. Non, mais attendez.
Oui.
Pardon, je le rappelle parce que
on a fait l'open bar pendant des années.
Voilà. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que comme on a beaucoup fait de bêtises et que donc il y a de l'inflation. Alors, il y a d'autres raisons à l'inflation. Je le concède volontiers. Mais il y a quand même des raisons qui sont qu'on a fait des bêtises. On va corriger ça en faisant des nouvelles bêtises. Au lieu d'en conclure qu'il faut peut-être arrêter de faire des bêtises. Donc, on ne sait pas trop comment prendre le sujet. Moi, je trouve ça profondément démoralisant. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a un consensus... Parce que l'idée qu'il y ait de la gabegie, de la démagogie à la veille d'une élection, sachant que les veilles d'élection ont tendance à durer plusieurs mois, etc. Mais enfin, là, on est vraiment à 3 mois. Moi, j'y suis résigné, malheureusement. C'est le prix à payer pour une démocratie. La nôtre est quand même un peu dysfonctionnelle. C'est-à-dire que, comme on a un parti centriste impérieux qui a deux ailes extrémistes totalement démagogiques, il y a très peu de place pour un débat sérieux et il n'y a quasiment pas la possibilité d'exprimer des opinions raisonnables qui ne ressortissent pas précisément à la démagogie. Donc ça, c'est les conséquences de l'élection d'Emmanuel Macron. Mais, encore une fois, je comprends qu'il y ait de la démagogie à la veille d'une élection. Le problème, c'est que nous, c'est structurel, quoi. C'est-à-dire que c'est sans arrêt. Et avec les résultats qu'on sait. C'est-à-dire que nous avons une dette record, nous avons des déficits records, nous avons une redistribution record, nous avons des dépenses publiques records, et aussi un chômage record, et une économie qui va très mal. Donc, si vous voulez, l'idée qu'on va en faire plus pour que ça aille mieux est une idée absolument folle à mes yeux, mais c'est une idée qui est très prévalente dans le débat public. Et pas seulement en période électorale. Là, c'est vraiment la folie, quoi. C'est-à-dire que c'est l'échec. Mais quelque chose qui aurait ressemblé à ça il y a seulement 5 ou 7 ans aurait fait rigoler tout le monde. Bah non, maintenant tout le monde trouve ça normal. En fait, on est tous un peu dans le truc, bah tiens, peut-être que celui-là me profitera. Bon, celui-là, probablement, j'aurai pas le droit, mais celui-là, je peux le choper, etc.
Tout le monde veut son chèque, là. Hein.
Mais l'idée, par exemple, de faire baisser le prix de l'essence pendant 4, 5 mois en le finançant, c'est quand même une idée folle. Surtout dans un monde où on nous dit qu'il faut payer plus cher l'énergie. Enfin bon. Je regarde ça effaré.
C'est pour ça que beaucoup d'observateurs et d'économistes qui regardent ça disent qu'il est grand temps de sortir de la mesure universelle qui profite à tous pour cibler non pas le produit, mais les individus. Quand vous ciblez un produit, en plus, vous alimentez son inflation. Faut cibler, c'est le but du chèque carburant, là.
Mais alors, le chèque carburant. Ça va créer des emplois de fonctionnaires, parce que pour faire le départ entre ceux qui ont droit et les autres,
Le chèque carburant, il va falloir trouver les gens à faible revenu, ça on sait faire, mais il faut mettre en face ceux qui ont une carte grise. Après, il faut compter le nombre de kilomètres qu'ils font pour aller bosser. Et voir si là où ils partent, il y a ou pas un transport en commun disponible. Et puis après, qu'est-ce que ce sera un gros rouleur? Il y aura forcément un nombre de kilomètres. Bruno Le Maire avait dit il y a quelques semaines, autour de 100 km par jour. Vous imaginez le type qui a 98 bornes, et dans le baba, il va être content, lui. Même s'il rentre dans les conditions de ressources. Ouais. Bon. Moi, je me demande si on n'est pas en train de faire le sucré avant le salé. Hein,
parce que c'est ce que dit Cécile Cornudet ce matin. Et le problème de faire le sucré avant le salé, c'est qu'on ne peut plus jamais du tout faire le salé quand on a tout donné. Mais ça, c'est une classique, hein. En France, souvent, on donne tout et puis ensuite on dit on serait content de négocier. Vous allez rire. Les gens à qui on a tout donné, ils sont pas très partants pour la négo.
Je suis d'accord avec vous, tous les records que vous avez cités, Philippe, dette, dépenses publiques, prélèvements. On a aussi le record de faiblesse du taux d'inflation européen en ce moment.
Oui, bon. Super.
Vous avez vu ce qu'a dit Janet Yellen.
Parce qu'on n'a pas d'inflation, ça. Pas d'industrie, pardon. Les coûts se transmettent beaucoup par l'industrie. Si on est dans les services, c'est pas du tout.
Enfin, ok. Bon, alors ça participe, mais
c'est très important comme explication.
Mais on commence à flipper dans les pays où on est entre 8 et 10 quand même. Hein. Janet Yellen a dit hier, l'inflation est à un niveau inacceptable. Ils sont à 8,5. Nadine Levrato, par rapport à ce que dit Philippe Manière, oui, effectivement, là c'est le sucré aujourd'hui. Le 29 juin en Conseil des ministres, toute la petite liste à l'après-vert, elle sera là. Vous avez quelle lecture de tout ça?
Alors, je partage d'une certaine façon l'effarement de Philippe Manière concernant toutes ces rustines, alors que finalement, il y aurait une proposition assez simple à mettre en œuvre. C'est un, le rehaussement du SMIC, deux, le rétablissement de l'indexation des salaires sur les prix, qui résoudrait en une mesure, et donc ce serait simple, ça plaît aux adeptes de la simplification de l'action publique, et ce serait efficient, comme le montrent plusieurs travaux qui analyse que actuellement on est plutôt dans une logique d'indexation des profits sur les salaires et le sujet que vous annonciez justement sur les refus des actionnaires de valider la hausse des rémunérations des dirigeants va dans ce sens, excusez-moi. Et donc, ces patchs qui sont proposés actuellement, qui sont, on l'a bien compris, temporaires, parce que un chèque, c'est one shot, hein,
ce sera one
et,
shot,
et
oui.
C'est arbitraire, comme vous le signalez, et la gestion peut en être coûteuse. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas des fonctionnaires qui vont faire le travail, ce sont des intérimaires, comme c'est désormais largement le cas dans toute la fonction publique, c'est pensé par des cabinets privés et c'est mis en œuvre par des contractuels. Donc, le coût et la gestion ne seront pas faramineux. En revanche, l'efficacité de la chose est extrêmement douteuse. On a vu que le chèque énergie ne bénéficiait pas essentiellement à ceux qui en avaient le plus besoin, mais comme tout le monde l'a reçu, y compris ceux qui possèdent des SUV.
Le chèque inflation. Chèque énergie, 5 800 000 ménages. Oui. Chèque inflation, 38 millions de Français en dessous de 2 000 euros.
C'est un non-sens absolu. Autant mettre en place des systèmes d'indexation.
Le débat est ouvert, et d'ailleurs, le débat n'est pas simplement ouvert en France. Quand vous entendez réindexation des salaires, Sylvain Aurébi? Effectivement, c'est une mesure. Le problème, c'est que tout le monde, on fait des primes et on fait des rustines et des patchs, comme dit Daniel Levaco, pour éviter
l'inflation.
Pour éviter que l'inflation s'installe durablement.
Si on considère que l'inflation s'est installée durablement et que cette situation est une situation structurelle, alors il faut probablement prendre les mesures d'augmentation du SMIC, d'indexation des salaires
le
sur
SMIC,
les prix.
Le SMIC, il suit à peu près
il augmente automatiquement. Il n'y a pas de sujet.
Il est indexé,
il n'y a pas de coup de pouce.
Le coup de pouce n'est pas légitime.
Mais si on considère que l'inflation est pérenne maintenant, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les banques centrales considèrent que cette inflation est quand même transitoire et qu'en tout cas, elle est due à des causes exogènes. Il faut rappeler que l'inflation, elle est venue quand ? Elle est venue quand il y a eu la pandémie, parce qu'on sort quand même de 2 ans de pandémie qui ont complètement déréglé le système international, les systèmes d'échange, que cette pandémie a causé des ruptures sur le fret qui ont causé des hausses de fret phénoménales qui ont elles-mêmes engagé de l'inflation, et que suite à cette pandémie, on a eu cette guerre en Ukraine qui est venue ajouter de l'inflation à tout ça, mais on reste quand même sur une inflation transitoire. L'autre solution consisterait, enfin, ou la solution que propose peut-être Nadine ou Philippe, ce serait de réduire, de baisser la TVA ou la TIPP sur l'essence, qui est une mesure pérenne. Alors, allez la remonter après. Alors, pour les finances publiques, c'est probablement
c'est
bien
très
pire.
Cher. Hein.
Augmenter les salaires, si demain l'inflation revient à un niveau normal, on ne les baissera plus. Donc, on va casser la croissance. C'est-à-dire que les entreprises vont supporter, si on augmente les salaires et que l'inflation retombe, les entreprises vont supporter des charges importantes qui vont casser la croissance. Le pari du gouvernement aujourd'hui, c'est de se dire, pour le moment, on considère que c'est très fort, mais transitoire. Si dans 6 mois, on se rend compte que ça n'est pas le cas, eh bien, on viendra à des mesures plus structurelles, plus pérennes. Mais aujourd'hui, on prend encore ce pari. Donc, on préfère donner des chèques one shot, comme disait Nadine.
À crédit.
Mais la baisse de la TVA, c'est pareil. Et l'augmentation des salaires, c'est pas à crédit. C'est contre les entreprises, parce que c'est les entreprises qui vont payer, et c'est la croissance et le chômage qui vont souffrir. Donc, c'est un arbitrage aujourd'hui. C'est difficile de choisir entre les deux, parce qu'on est dans une période intermédiaire où on ne sait pas si cette inflation est définitive ou pas. Moi, je pense qu'elle est transitoire malgré tout aujourd'hui, parce que les causes, à la fois sur l'agriculture, sur l'énergie, sont exogènes, sont des. Et on n'a pas détruit.
L'inflation, elle
on n'a pas détruit des matières premières aujourd'hui. Il n'y a pas eu de destruction de matières premières. Il n'y a pas eu de destruction de récolte. Il n'y a pas eu de destruction d'arbres. Les matières premières. Demain, si on retrouve une situation normale. À la fois en Russie et en Chine. Il ne faut pas oublier que la Chine aussi a été très
perturbateur. Il y a un début de déconfinement en Chine, là.
Bien sûr.
Ce qui tire d'ailleurs le baril de pétrole au-delà de $120.
Et on voit d'ailleurs que le temps d'attente au port de Shanghai a beaucoup décru et qu'on se retrouve presque dans une situation normale. Donc, voilà. Si tout ça revient à la normale, alors évidemment, si la guerre s'arrête rapidement, on peut en rêver, mais j'y crois pas. Mais si on revient à une situation normale dans les mois qui viennent, alors le gouvernement aurait eu raison de prendre des mesures one shot. Si on n'y revient pas, il faudra prendre des mesures plus longues.
Je vous laisserai gérer le message, c'est attendons un peu d'avoir une forme de certitude sur la vision d'inflation pour prendre des décisions définitives. Allez-y, Nadine.
Je comprends pas trop le problème de la durée de l'inflation, parce que les salaires sont indexés sur une inflation en T-1. Donc si l'inflation diminue, les salaires augmenteront moins automatiquement.
Oui, mais ils diminueront pas.
Non, mais il n'y a pas raison. Non, mais
ce qu'on veut dire, c'est rester élevé. Ce qu'on veut dire, c'est que si vous avez, si vous avez fait grimper vos salaires à un niveau très important, parce que l'inflation temporairement était très importante, si cette inflation décélère soudainement, ce qui est l'espoir de Bruno Le Maire à compter de début 2023, bah, les salaires que vous avez fortement augmentés au moment du pic d'inflation, vous ne les baissez pas.
Non, mais c'est normal, puisque les coûts sont restés au même niveau. Ça poserait un problème s'il y avait déflation, s'il y avait désinflation.
Ce qui n'est pas prévu.
Ça n'arrivera pas.
Mais bien sûr, ça arrivera.
Mais ça sera zéro.
Mais bien sûr, ça arrivera. Sur le blé, évidemment, que les pâtes.
L'indice en général.
Le prix des pâtes baissera sur l'essence de la même façon.
Les gens ne se nourrissent pas que de pâtes.
Sur l'essence de la même façon, si le pétrole rebaisse à 50 dollars, le prix de l'essence redescendra à 1,50 €.
Il y a des prix qui redescendront, pas tous.
Bien sûr, mais beaucoup de prix redescendront, ça va de soi. Regardez le café. Le café est un produit qui, au supermarché, peut augmenter énormément quand il y a des gelées au Brésil, par exemple, et redescendre. Donc il y a beaucoup de produits. Les pâtes alimentaires, vous verrez.
Quelle est la contribution à l'indice des prix aussi?
Attendez, reprenez Nadine parce que j'ai pas entendu le début de votre phrase. Non mais c'est bien qu'on ait eu du débat et même si on se marche un peu dessus. Allez-y Nadine, là-bas.
Oui, les périodes, les véritables périodes de déflation sont rarissimes.
Rarissimes. Heureusement d'ailleurs.
Oui, probablement.
C'est la cata la déflation.
Donc je ne vois pas où est le risque. Si on revient à une inflation telle qu'elle était avant la crise à 1-2% par an, on aura des salaires qui évolueront à ce niveau-là.
Non mais deux petites choses. Moi je suis d'accord avec
Philippe Manier. J'avance.
Il n'y a pas de risque que ça monte tellement que ensuite ça soit découplé des coûts qui redescendrait vivement. Il y a un petit risque que ça soit réajusté, mais il n'y a pas de risque majeur là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord. Là où j'ai un petit problème avec ce que dit Nadine Levato, c'est qu'elle, si je comprends bien, Nadine, vous aimeriez qu'il y ait une indexation d'office, d'autorité légale.
Ah, le choix politique. Ouais, moi, l'inverse de Jacques Delors, 1983.
Il y a un truc qui s'appelle le marché, c'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, il y aura des revendications salariales. Les salariés vont dire, moi, j'aimerais bien garder mon pouvoir d'achat. Les employeurs vont se dire, j'aimerais bien le garder, donc je vais quand même augmenter les salaires. On n'a pas besoin de la 257e intervention d'État impérieuse sur le sujet. Il n'y a pas besoin. Regardez ce qui se passe dans les pays où il n'y a pas d'indexation, c'est quand même heureusement la norme. Eh bien, vous avez évidemment une hausse des salaires qui suit la hausse des prix. Si vous l'indexez de manière. Bah, IG Metall, précisément, ça s'appelle de la négociation. C'est absolument
pas
de la réglementation.
Oui, mais on n'est pas outillé pour cela.
D'accord, mais vous ne pouvez pas m'opposer IG Metall comme étant de la réglementation.
Je peux vous l'opposer parce qu'on n'est pas du tout dans le même cadre institutionnel.
J'entends bien.
Et vous savez que les syndicats en Allemagne ont beaucoup plus de puissance pour toute une série de raisons, y compris en raison de la codétermination qu'en France. Et donc, on est dans des systèmes de régulation des... j'aime pas dire marché du travail parce qu'il n'y en a pas, des salaires qui sont complètement différents. Par conséquent, vous voyez bien les écarts de salaire, de rémunération entre les petites entreprises et les grands groupes. On voit que les rapports de force sont très différents. Donc en homogénéisant, en prenant un dispositif qui arrose
d'État,
tout le monde...
Ouais. Mais bien, un truc qui arrose tout le monde d'État. Moi, je suis absolument contre.
Bon,
je l'ai bien compris. Je voudrais dire un tout petit mot sur la inflation.
C'est vos arguments, je ne veux pas vous mettre d'accord, c'est vos arguments qui m'intéressent. IG Metall est un cas spécial, c'est pareil, aucun problème là-dessus.
Enfin, encore une fois, IG Metall, c'est de la négociation.
Ils sont en grève,
ils
veulent 8,2%, ils ont déclenché un mouvement de grève pour les obtenir.
Non mais fort bien, moi je suis absolument favorable à la grève comme moyen de défendre ses avantages, enfin c'est quand même complètement normal. Simplement, on ne peut pas me dire, comme il y a des grèves en Allemagne, il faut faire de la réglementation en France. Enfin ça, c'est juste un truc qui n'a pas de sens logique, voilà à mon avis. Après, juste sur l'inflation, je voudrais quand même rappeler quelque chose, on est tous en train de dire, ouais, ça sera temporaire. Ce que dit le gouvernement, ce sera temporaire, regardez, c'est l'Ukraine, etc. Regardez les courbes de décollage de l'inflation. Ça commence il y a 18 mois, bien avant la guerre en Ukraine,
la pandémie.
Parce que à ce moment-là, il n'y a pas de confinement chinois très strict comme aujourd'hui. Donc, il y a d'autres causes. Et ces causes-là, on les connaît, mais personne ne veut les voir. C'est la folie monétaire et la gabegie budgétaire. C'est normal qu'il y ait de l'inflation quand on ouvre grand les vannes de l'argent public et quand on descend les taux dans le négatif et qu'on les y maintient pendant des années. C'est normal. Ce qui est fou, c'est que les spécialistes de ces questions-là dit le contraire, et nier cette fatalité au moment où il faisait ses folies. Mais l'inflation que nous avons aujourd'hui, elle est pour partie conjoncturelle et liée à des phénomènes d'hystérésie sur la non-disponibilité de certaines matières, le Covid, la guerre, etc. Mais elle est principalement liée, et ça se voit chronologiquement.
C'est le retour de la théorie quantitative de la
matière. Écoutez, c'est complètement fou que pendant quelques années, il y ait des gens qui aient pensé qu'on allait abolir. C'est comme la gravité. Ah ben non, ben il n'y a plus,
Philippe,
c'est terminé.
Pendant plusieurs mois, on a observé que les corrélations habituelles que l'on voyait entre l'inflation, entre le chômage, enfin, les corrélations habituelles économiques ne se produisaient plus.
Et bah, vous savez ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'elles reviennent fortement quand elles reviennent tardivement. C'est ce qu'on prend dans la gueule. Passez-moi l'expression. Aujourd'hui, on a une explosion de l'inflation qui est partiellement, j'en conviens, mais largement dû aux folies budgétaires et monétaires qui ont été faites entre 2008 et 2022. Voilà.
Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que la part due aux folies monétaires dont parle Philippe est probablement de 2 à 3%, mais que quand on monte à 8 ou à 10, ce sont les causes exogènes dont je parlais. C'est la guerre, c'est la hausse du pétrole, c'est la disparition du blé, c'est l'ensemble des problèmes qu'on a, et la cause principale n'est pas, à mon avis, la faute des banques centrales. La cause principale, c'est aujourd'hui ces raisons exogènes.
Ce qui est certain, c'est que les banques centrales et la BCE vont remonter. Enfin, remontent. Évidemment. Et la BCE va remonter ses taux. C'est pour ça que je me dis que là, c'est le sucré en ce moment. Mais après, les hausses de taux de la BCE, sans doute minimum 2 d'ici la fin de l'année, pour avoir... Pour le dire clairement, certains nous disent on va être obligé à l'automne d'envoyer des signaux, il y aura un peu d'austérité pour une partie de la population. Ça va être une austérité fiscale, ça va pas être de la baisse de dépenses publiques. Robert m'écrit...
Austérité fiscale,
vous êtes optimiste.
Je suis pas sûr, oui.
Pensez qu'on va baisser soudainement les dépenses publiques.
En tout cas, on va pas augmenter les impôts. Il faut comprendre une fois pour toutes, ce n'est pas dans l'ADN de ce gouvernement. Okay. Ça fait 5 ans que vous dites ils vont augmenter les impôts, ça fait 5 ans.
Baisser les dépenses non plus, c'est pas dans leur ADN.
Bien entendu, mais
il y a un moment, s'il faut qu'il fasse quelque chose.
On marque une pause. On change de sujet.
Vous nous brimez, Nicolas.
Non, mais on peut continuer. Si vous voulez, on peut continuer. Robert me dit, il y a une dizaine d'années, j'avais acheté un livre de politique fiction, Le jour où la France a fait faillite. Je conseillerais bien à Emmanuel Macron de le relire. Ouais. Ça se termine mal. Et j'ai peur que ça nous arrive. Et puis il y a Hugo qui dit, oui, c'est vrai, il y a de la démagogie partout, mais si on ne faisait rien face à l'inflation, ce serait une folie bien plus importante.
Mais non.
Ce
qu'on a toujours fait.
Vous pourrez lui répondre si vous voulez dans un instant. Je voulais encore dire un truc, mais je ne sais plus. Alors on va s'arrêter là, on se retrouve dans un instant. Donc on pourra répondre, là je vais lire, j'ai plein de réactions. Hein. Et puis on va regarder ce que Terra Nova a écrit sur le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Nadine Livrato, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université Paris-Nanterre. Philippe Manière, le président de Veille-Solis Communication, qui a publié Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Et également Sylvain Rébi, le président d'Orientis, l'été Cousmi. Les syndicats en France n'ont plus aucun pouvoir. Voilà, écrit Daniel. Alors pour les salaires, pas d'espoir. Ça chauffe chez vous, là, Sylvain ? Les NAO, c'est quand vos NAO, là ?
C'est passé, là.
Ben voilà, mais vous allez devoir en ouvrir plus vite, remettre le couvert
Pour le moment, c'est la même histoire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de certitude sur la pérennité de cette inflation, il ne va rien se passer. Vous ne voulez pas que toutes les entreprises françaises augmentent les salaires du jour au lendemain ? Ben non, c'est juste pas possible. Enfin, et puis, il y a aussi, c'est bien gentil cette histoire, mais il y a une histoire de compétitivité. Si on est les seuls au monde à augmenter nos salaires, à se retrouver avec des coûts de nos produits qui ont augmenté plus que ceux de nos voisins. Oui,
le SMIC allemand va arriver à 12 euros de l'heure le 1er octobre.
Mais ça se fait par la négociation, ça ne se fait pas par la contrainte.
D'accord, non, mais...
Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Quand il faut des augmentations de salaire, on les fait.
Il y en a déjà.
Bon. Mais bien, il y en a.
En ce moment, tout le monde veut son chèque. Hein. La CPME donc, a tendu la sébile aussi hier en dévoilant. Elle fait du marketing, le pack pouvoir d'achat de la CPME. Ils veulent avoir plus d'accès aux heures supplémentaires défiscalisées. Ils veulent que la prime Macron soit plus facile à verser, notamment en plusieurs fois. Que la participation obéisse à une nouvelle formule de calcul. Qu'on puisse avoir des critères d'intéressement individuels. Et puis que la fameuse indemnité kilométrique ne soit pas une baisse d'impôt, car ça ne profite qu'aux gens qui payent l'IR, mais un crédit d'impôt qui profiterait donc à tout le monde. Bon, ils ont envoyé leur pack pouvoir d'achat. Tout le monde le veut. Hein. Les agriculteurs, ils veulent un chèque alimentation. Parce que si on oblige les gens à acheter du local, ils en profiteront. Donc, voilà. Attends, il n'y a pas un pays d'Europe qui échappe à la pression salariale en ce moment. Pas un. Voilà, il y a eu des hausses.
Non, mais le chèque, par contre, c'est quand même assez français.
Le chèque quoi ?
Le chèque ceci, le chèque cela.
Les Américains ont fait beaucoup de chèques.
Ils en ont fait au moment du Covid.
Oui. Il y a eu une forme d'hélicoptère monnaie à la fin Trump et au début Biden. Hein.
C'était des mesures Covid. Je ne dis pas qu'elles étaient bien, pas bien, etc. C'est-à-dire que ce n'était pas justifié par des problèmes de pouvoir d'achat. C'était justifié par des problèmes de blocage de l'économie. Encore une fois, on peut penser que c'est opportun ou pas, mais. mais en tout cas...
Ça, c'est un classique, un Fredo. Dites à vos invités d'essayer de vivre un mois avec le SMIC, juste pour voir. Et ils vont ravaler leur discours. Oui, mais moi, j'ai eu ce débat il y a une semaine d'Anine Levratou
avec
ici.
Avec Gilles Ravou.
Oui, avec Gilles. Oui, et oui, j'ai voulu qu'on parle de ça, parce que il m'arrive en tant qu'observateur de la vie économique, et je suis juste un messager d'expliquer dans des chroniques ce qui se passe, notamment autour du salaire minimum. Est-ce qu'on a besoin d'être soi-même payé au salaire minimum pour avoir peut-être une expertise qui peut intéresser une majorité des gens? Faut quand même. On a l'impression qu'on n'a pas le droit d'en parler si on n'est pas soi-même smicard. C'est un peu...
Avec des raisonnements comme ça, on ne pourrait pas non plus parler de la rémunération des patrons du CAC 40 si on n'est pas patron du CAC 40.
À la limite, enfin,
bon, donc il faut être décent, il faut se documenter, c'est ça la responsabilité qu'on a collectivement, mais on ne peut pas ne parler que de ce dont on a l'expérience vécue personnelle, parce que par définition, on a tous des expériences vécues personnelles limitées dans le temps, dans l'espace, dans le quantum, etc.
Ça nous amène à l'histoire de Mélenchon, les 1500 nets sur le SMIC, c'était ce jour-là où j'ai fait la chronique. Je suis pas venu dire il faut le faire, il faut pas le faire. C'était pas. Non, je suis venu lui dire voilà, sur des hausses importantes, ce serait 15% de hausse tout de même. Hein. Ça ferait 200 euros de plus net par mois. Avec 15% de hausse, vous savez les effets positifs que vous avez, vous savez les effets négatifs. Voilà. Et après, c'est un choix politique. Le politique fait son choix. Mais on n'est pas obligé d'être forcément frappé par cette catégorie de population pour avoir peut-être un avis éclairé qui peut-être intéresser. Bon, bref. Oui, Nadine, vous...
Non, mais je crois que...
Oui, évidemment, vivre avec... Mais même
c'est
un SMIC...
C'est une question méthodologique, de toute façon. Est-ce qu'on a besoin d'être soi-même quelque chose pour étudier la chose en question? Ça se discute. Ça se discute même beaucoup. En revanche, c'est vrai qu'on a quand même un biais dans la représentativité des catégories socio-professionnelles, dans les médias, regardez-nous, peut-être que un peu plus de mixité permettrait de tempérer aussi certains propos. Mais bon, c'est pas l'objet du jour.
Non, mais enfin bon, ce sujet m'intéresse. Heureusement qu'on a des chercheurs, heureusement qu'ils sont pas au SMIC et qu'ils peuvent réfléchir, par exemple. Pour certains, c'est pas faux. Mais heureusement qu'on a des économistes, des experts qui peuvent réfléchir, par exemple, à des solutions intelligentes pour essayer de lutter contre la pauvreté sans être même en dessous du seuil de pauvreté.
Tout à fait,
voilà. Monsieur. Je ne suis pas certain que si je fais un débat avec des gens qui sont totalement en dessous du seuil de pauvreté, ils aient des solutions qui soient des solutions opérationnelles, crédibles, possibles à mettre en place, qui permettraient de passer de 14%, qui est d'ailleurs un taux bas, à peut-être 10, je sais pas.
Et en il y a même des arguments, enfin, qui sont irrecevables dans le cadre symbolique et politique dans lequel on a placé ce débat aujourd'hui, mais des arguments d'ordre épistémologique qui disent le contraire. C'est-à-dire que si on veut bien parler d'un sujet, il vaut mieux ne pas en avoir l'expérience personnelle et vécue.
Il faut mieux. Oui, aussi, vous avez on peut pas être dans l'expérience. Aussi, l'observation
c'est exactement ce que je veux dire. C'est qu'il y a des arguments dans tous les sens, mais il y en a un en particulier qui est particulièrement cocasse en réponse à votre auditeur, dont je comprends très bien
Je l'ai lu par dizaines, cette
réaction. Il y a une vision scientifique qui considère qu'il ne faut pas être dans l'expérience si on veut en juger objectivement. Voilà. On peut tout dire. Encore une fois, moi, je pense qu'on est tous tenus à un devoir de décence et de prise en compte honnête de la réalité, celle qu'on connaît et celle dont on sait qu'elle existe sans la connaître. Au-delà, c'est absurde de mettre les gens en demeure de ne parler que de ce qu'ils savent.
Et même si le SMIC était à 1500 euros, vivre avec 1500 euros par mois, c'est difficile.
J'aime bien votre lapsus, vous avez dit, demander aux gens de parler de ce qu'ils savent. Oui, justement, pas de ce qu'ils vivent.
Par expérience.
Voilà. Bah, d'accord.
Entre savoir par expérience et vivre, je vois pas une très grande différence.
Et je comprends aussi les réactions des gens qui me disent « Ah oui, mais alors vous n'êtes pas concerné. Et puis, moi, mon cas, c'est pas le chiffre que vous donnez parce qu'on évoque des moyennes, parce qu'on évoque des observations. »
Mais attendez, après, il faut rentrer dans des détails. Typiquement, le SMIC, vous voyez, on va peut-être pas avoir cette conversation ce matin, mais si vous avez un SMIC à Guéret, ou si vous avez un SMIC à Morlaix, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur ces deux charmantes villes, mais ça n'est pas la même chose que d'avoir un SMIC à Paris, pour des tas de raisons, de prix de l'immobilier, de prix de toutes les denrées de première nécessité, de nécessité de se déplacer, etc. etc. Donc, parler du SMIC en général est en soi également une erreur. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont très compliqués. Nadine ne peut pas en dire ce qu'on vient.
J'en suis d'accord. C'est un problème de parité de pouvoir d'achat Paris, qu'on connaît bien au plan international et dont on discute très fréquemment au plan national parce qu'en effet, le prix du mètre carré, les loyers ne sont pas les mêmes. même
mais
il n'y a pas que le SMIC d'ailleurs parce que on voit bien, moi
je vois passer au sujet.
Non non, c'est pas du tout, non, il n'y a pas qu'au niveau du SMIC que ça se passe. Je vois chez moi, il y a des gens qui quittent Paris, qui démissionnent et qui vont partir en province parce que ils savent que à Lyon, à Nantes ou je ne sais où, ils vont avec un salaire comparable avoir un train de vie qui va être largement meilleur.
Salaire comparable, c'est pas évident.
Il y a très peu d'écart salarial, mais il y a une qualité de vie qui est nettement meilleure quand on s'éloigne de Paris. Donc ça n'est pas faux au niveau du
SMIC. Non, mais il faut pas exagérer les phénomènes de fuite des métropoles. Hein, qui ont été terriblement.
Moi je les exagère pas, je les vis.
Vous êtes exactement dans le biais.
Statistiquement, c'est pas très
bien. Nadine a raison, il n'y a pas eu d'exode urbain.
On en parle dans un an. C'est une décision qui ne se prend pas du jour au lendemain.
Les gens
prennent cette décision. Petit à petit, j'avance. Je le vois, je le vis parce que toutes les semaines, tous les mois, j'ai des gens qui viennent me dire je quitte Paris et je vais m'installer à Nantes, à Lyon, à Bordeaux.
Vous verrez que.
J'ai regardé.
On en reparlera dans un an.
Oui, non, mais d'accord. Il y a aussi les gens qui regrettent de l'avoir fait. Et puis, moi, j'ai regardé un petit peu ce qui retombe des observateurs un peu plus. Qui ont une focale un peu plus élargie sur le marché. Oui, il y a, mais on n'est pas sur un exode urbain.
Les prix.
Non, il n'y a pas d'exode urbain.
Ce qu'a fait Olivier Bouba-Olga le montre très clairement. On en a beaucoup parlé, mais c'est un phénomène extrêmement limité.
Bon, Terra Nova est marqué à gauche, il n'y a pas de problème, on le sait. C'est un très bon think tank qui désigne totalement le programme de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence sous la plume de Guillaume Anzo, qui a été conseiller économique de François Mitterrand. Alors on lui rétorque que par la suite, aux côtés de Jean-Marie Messier, il a été aussi peut-être un peu l'homme du déclin de Vivendi. Bon, en tout cas, il a regardé ce que propose économiquement Jean-Luc Mélenchon, il considère que c'est une catastrophe, voilà, tout simplement. Et les engagements de la NUPES provoquaient rapidement un désastre économique, rapidement, dit-il. Il regarde le financement, donc la hausse de l'impôt sur le revenu, le retour de l'ISF, la suppression du prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, des suppressions d'allègements de cotisations sur le travail, ou encore la poule aux œufs d'or des recettes de la lutte contre la fraude fiscale. Et il considère, Guillaume Anzo, que c'est à peine un tiers de la dépense annuelle supplémentaire qui serait financée. Il voit un tissu productif affaibli, un coût du travail plus élevé, qui pénaliserait à la fin les salariés. Et il conclut, la relance voulue par Mélenchon, c'est cette fois celle de Mitterrand en 1981. À l'évidence, cette dégradation des comptes publics provoquerait une vive réaction de marché. On aurait une crise de la solvabilité de l'État. En tout cas, elle serait possible. Et dans ces cas-là, ce sont bien sûr les pauvres et pas les riches qui en souffrent, dans la mesure où ce sont eux qui ont besoin des aides publiques pour vivre, alors que les riches s'en sortent toujours. Vous vouliez réagir, Nadine Livrato, par rapport à cette lecture du programme économique de Jean-Luc Mélenchon?
Alors, je voudrais réagir, mais surtout indiquer qu'il y a eu beaucoup de réactions. Le mérite de cette note de Terra Nova, c'est justement d'avoir suscité un débat et avoir permis aux économistes de la NUP, je crois qu'on dit comme ça, peaufiner, de préciser les mesures. Alors, premièrement, Guillaume Anzo, comme on disait avant, d'où parle-t-il, hein, parce que, comme toujours, il vient de la gauche, ça veut dire qu'il n'y est plus, et depuis les années 80, il a fait beaucoup de choses, Vivendi, la banque Rothschild, donc il a aussi un parcours. Deuxièmement, c'est
pas... Et alors ? Ah non, mais non, laissez-les. Philippe, Nadine Philly.
Et
d'où parles-tu, camarade?
Mais pourquoi on dit seulement une chose? Mais peu importe.
J'ai rappelé qu'il avait
été au côté de Messier. Vous avez rappelé ce que tout le monde rappelle, hein. C'est pas une critique du tout. Deuxièmement, c'est pas son analyse à lui. Il reprend les analyses qui ont été faites par l'Institut Montaigne.
Sur le chiffrage, oui.
Sur le chiffrage, donc ce n'est pas...
Il y a 50 milliards d'écart sur le chiffrage.
De son travail, il mobilise un rapport de l'Institut Montaigne, autre think tank, créé par le PDG d'AXA. Donc voilà, hein, il faut recontextualiser la chose. Alors, quels sont les points sur lesquels, d'ailleurs, a répondu Jean-Luc Mélenchon, lui-même, réponse publiée par Terra Nova, qui fait une réponse, et oui, sur le blog de Mediapart, les économistes qui ont travaillé au programme L'Avenir en Commun font également une réponse. Et il est important de lire tous ces éléments, parce que, d'abord, le premier problème qui est pointé, c'est celui de la dette publique. La dette publique qui... on le sait, n'est pas créée par le programme L'Avenir en commun, puisqu'elle existe déjà.
Elle est
colossale et elle a été créée par le quantitative easing, le sauvetage des banques en 2008-2009.
En France, zéro.
Il y a un excédent de
zéro en France.
Il y a eu également récemment quand même 600 millions d'euros qui ont sur le premier quinquennat Macron, 600 millions de milliards d'euros de dette publique qui ont été générés par les exonérations, les allègements, les milliards d'euros de réduction fiscale supplémentaire pour qui, notamment pour les entreprises.
Hein. On a considéré que 330 c'était Covid. C'est une note de Philippe
plus le Covid. Donc là, il y a quand même un chiffrage aussi.
Non, mais bon, il faut qu'on avance, Nadine, parce que le temps passe.
Fait. Donc, il y a ce débat sur le multiplicateur, les hypothèses qui sont prises par Montaigne Terranova d'un côté, qui suscitent un grand débat, et les hypothèses qui sont prises par les économistes du programme L'Avenir en commun, qui s'appuient quand même sur les modèles macro de la Banque de France et le modèle Mésange de l'INSEE. Alors, on peut discuter des hypothèses, mais...
Ils n'ont pas été prévus pour 13 points de PIB de déficit structurel, quoi. Ils n'ont pas été prévus pour 13 points de dépenses publiques en plus. Ces modèles, ils ont été prévus pour un point de dépenses publiques en plus, un point de PIB, mais pas 13.
Non, mais...
Alors, c'est quoi votre point,
mais,
alors ?
Mais alors, oui, il faut, parce que là, il y a 13 minutes...
Je crois qu'il y a un biais. Il y a un biais d'analyse, d'abord, qui est réalisé par Terranova. Et d'autre part, ce qui aurait été équitable, ça aurait été de faire le même exercice pour le programme non chiffré d'Emmanuel Macron.
Alors, en l'occurrence...
Or, on ne l'a pas. Bon, voilà, ça aurait été intéressant de mettre face à face les deux programmes.
Je n'ai pas fait. Je fais réagir Philippe Bagnard. L'histoire, c'est que, bon, Anzo de Terranova, il nous dit, cette proposition, ce projet mène le pays à la banqueroute. C'est quand même ça, au désastre économique, à l'affaiblissement du tissu productif et à la banqueroute. Après que sa vie ait évolué, qu'il se soit fondé sur l'estimation d'un site de... Montaigne dit 300 milliards le coût du programme annuel Mélenchon dit 250. Dans les deux cas, on est sur des montants substantiels.
Sur ce sujet, j'entends tous les arguments de Nadine, mais pour moi, ils vont dans l'autre sens, tous, sans exception. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, la dette, c'est pas Mélenchon qui l'a inventée, il y en a eu plein qui a été fait avant. Ça, je vous donne volontiers le point. Moi, ça fait 30 ans que je me bats pour qu'on arrête les folies. Mais l'idée que, comme il y en a eu beaucoup de faits avant, on a plus de possibilités d'en faire maintenant, est une idée folle, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'on est endetté jusqu'à la moelle qu'on peut encore moins qu'avant s'endetter. Donc, dire, regardez, avant, on a déjà fait beaucoup de folies, voyez bien qu'on peut encore en faire quelques-unes. Je caricature votre posture, mais,
oui,
mais... C'est pas audible. En tout cas, le fait que quelqu'un ait fait des bêtises avant ne nous dit rien sur l'opportunité de faire ceci ou cela pour l'avenir. Et puis, pareil, si, là je parlais du diachronique, si on regarde dans la comparaison entre candidats actuels, vous avez absolument raison de dire que ça serait bien de regarder le coût fou et délirant du programme de Macron, j'en suis complètement d'accord. Mais en quoi ça nous donne des éléments de vertu s'agissant de celui de Mélenchon? Je suis d'accord avec vous, on a beaucoup trop dépensé avant et on s'est beaucoup trop endetté. Je suis d'accord avec vous, Macron dépense beaucoup trop et nous endette beaucoup trop. Et alors, est-ce que ça nous dit quoi que ce soit sur le fait que ce serait bien de dépenser plus et encore plus, comme le recommande Mélenchon? C'est exactement le contraire. On est dans un univers où on a beaucoup trop péché, et donc faut arrêter les gaudrioles. Et le fait que vous me disiez, regardez, tous les autres le font, tous les autres le proposent, tous les autres l'ont fait, me conforte, moi, dans l'idée qu'il faut arrêter de faire des bêtises.
Non, une très
courte réaction. Ce que je veux dire, c'est que le programme de l'actuel gouvernement fonctionne, toutes choses égales par ailleurs, sur le financement de cette dette et le rôle des marchés financiers. Les économistes du programme L'Avenir en commun ont travaillé différemment, puisque le mode de gestion de la dette publique qu'ils proposent est fondamentalement différent.
Quoi ? C'est une dette à obliger des ménages ?
Non. Enfin, je ne suis pas macroéconomiste. Hein, donc,
oui, ils veulent faire reprendre la dette par la Banque de France.
Il y a 50 manières d'émettre de la dette.
Il y a des protections contre la spéculation actions contre la dette publique,
c'est
justement,
la Banque de
qui ont été détaillées dans le programme et qui peuvent amener justement à une gestion différente. Donc ça doit être pris en compte aussi.
Ah, dans ces cas-là,
c'est de la magie. Ça.
Si tu vends pas ta dette, si tu vends pas ta dette au marché, tu la fais reprendre par la Banque de France. Sauf que la Banque de France,
ou bien alors, c'est de la dette obligée auprès des ménages.
Non, mais c'est autre chose.
Ça, bah oui.
L'emprunt obligatoire.
En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle.
Bon, la Banque de France, pour l'instant, dans la mesure où nous sommes à l'euro, n'a pas une totale maîtrise de ses choix. La souveraineté monétaire appartient à l'Europe.
La
BCE a dit qu'elle arrêtait ce mécanisme de reprise de dette des États. Même si elle ne va pas dégonfler son bilan, elle ne prend pas de nouvelles obligations, ce qui signifie
elle peut changer d'avis.
Ah ben, elle pourra peut-être changer d'avis, mais en tout cas, à l'été qui vient, nous serons dans la contrainte, pour continuer à faire fonctionner le pays, d'aller cette fois-ci retrouver des investisseurs internationaux pour les convaincre de bien vouloir acheter à bon prix les titres d'obligataires que nous émettons depuis l'agence France Trésor. Sylvain Rémy.
Le problème, c'est pas tant l'application du programme de Jean-Luc Mélenchon, puisque, de toute évidence, il ne va pas être élu entre guillemets, dimanche prochain et le 19 juin. Le problème, c'est que on en fait tant autour de ce programme, on le commente tellement comme s'il pouvait être appliqué demain, que si demain Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu, si demain la NUPES n'a pas une majorité ou a moins de députés que ce qu'elle attend, eh bien on va dire, regardez, notre programme était prêt à être appliqué, nous avions tout était là et on nous a frustrés, on nous a volé notre victoire, allons la récupérer dans la rue. C'est ça qui m'inquiète. Depuis des semaines, on parle uniquement du programme de Mélenchon, depuis des semaines, Jean-Luc Mélenchon a antenne ouverte, alors sur le service public, on ne voit que lui, et même sur les antennes des télé Tout Info, on n'entend que ça, et si Mélenchon a été Premier ministre, et qui serait dans son gouvernement, etc., qu'on accrédite l'idée que ça peut arriver, et que si ça n'arrive pas, et il a très bien joué pour ça, et si ça n'arrive pas, il va dire, on m'a volé ma victoire, on nous a volé notre victoire, récupérons-la dans la rue. C'est ça qui m'inquiète, c'est pas du tout qu'il applique son programme, parce qu'il y a une chance sur 100 pour que ça puisse se produire, c'est qu'il vienne chercher cette victoire dans la rue, et là, on aura beaucoup plus de problèmes, et là, la ruine de la France, elle peut venir de ce côté-là.
C'est l'une des nouveautés de l'arrivée d'Emmanuel Macron, le CNR. Alors, ce n'est pas le Conseil national de la résistance, mais c'est de la refondation. Bullshit.
Non, mais déjà...
Mon idée, c'est qu'il veut étouffer les syndicats traditionnels.
Alors,
c'est faire une sorte de mini-CESE avec une posture...
Regardez, précisément, vous dites un mini-CESE. Il y a déjà le CESE, puis il y a surtout un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale. D'avoir élu les députés. Enfin, il y a le Parlement, il n'y a pas que l'Assemblée, il y a le Sénat. L'idée qu'il y ait une instance délibérative qu'on lance, qu'on crée en concurrence d'une Assemblée dont on vient juste
d'élire... Non, parce qu'elle ne prendra pas, elle ne votera pas.
Mais l'idée, c'est que c'est elle qui débattrait. Enfin,
proposerait.
Pourquoi on délibère? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Enfin, on est dans une démocratie représentative où il y a précisément un Parlement, le CESE, qui est la troisième chambre. Personnellement, je ne trouve pas...
Pour rappeler que c'est une chambre parlementaire, même si peu de gens s'en rendent compte.
Et il est, depuis peu, chargé aussi de faire vivre le débat public, les trucs participatifs, etc. Donc, je veux dire, on a tout ce qu'il faut. Et alors, la ficelle est quand même un peu grosse. Prendre le même acronyme que le Conseil national de la résistance...
Oui,
Non, mais je veux dire, moi, la communication, j'en vends, j'en fais, donc je... Mais là... Honnêtement.
Bon, honnêtement.
Et là, je vais vous faire une coulisse. Hier, je vous dirai pas qui c'est, mais un de mes trois invités, je lui dis, vous voulez qu'on parle du CNR? Il me dit, ah non, c'est horrible ce truc. Voilà. Réaction,
là, on est en train de commenter un truc qui n'existe pas encore.
Oui.
Qui est peut-être un effet électoral, on ne sait pas. L'idée, simplement, c'est que, évidemment, c'est le Parlement qui décide et qui amende. Mmh. Mais les projets de loi, c'est le gouvernement qui les propose. Et quand le gouvernement s'appuie sur une instance quelle qu'elle soit pour enrichir sa réflexion, le CNR par exemple.
Mais il y a 850 agences, Sylvain, plus le CESE, plus.
On veut être plus participatif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne défends pas le CNR qui n'existe pas encore, dont on ne sait pas ce qu'il fera, par qui il sera constitué et tout. Je dis simplement que ça peut être. On demande toujours que le peuple participe, que les gens participent, les forces vives, etc. Et quand on les fait participer, on dit non, c'est un gadget, il y a déjà des députés. Bon, alors, donnons sa chance au produit comme
l'autre. Là, on verra bien aussi. Ma raison, c'est qu'à tous les coups, on nous fait le... Ah ben voilà, mais les réformes viennent d'en haut, sans concertation.
Mais le CNR est créé par le... CNR New Look est créé par le haut. Donc je ne vois pas en quoi il émane d'une base
qui
n'a même pas été consultée.
Si on y met des Sylvain Aurébi, des Nadine Levrato, des élus locaux...
Mais non, mais je n'ai pas dit...
J'ai des communicants comme Philippe Manière...
pas bon.
Des journalistes.
On verra.
Attendez.
Pour
c'est un procès d'intention. Attendons de voir. C'est un procès d'intention. Attendons de voir ce qui se passe. On reviendra ici, Nicolas, débattre de sa création éventuelle.
Il y a 16% du capital d'EDF qui n'est pas dans les mains de l'État, Nadine Levrato. Et la petite musique de l'idée qu'on pourrait peut-être revoir l'État remonter à 100% dans EDF est en train de faire son chemin. Et c'est Agnès Pannier-Runacher qui a dit c'est pas tranché, mais on ne l'exclut pas. Alors vous savez qu'EDF, ça vaut 8,80 le titre. Elle a même quitté le CAC 40, cette action, à un moment de sa vie. Elle est rentrée en 2005 à 32 euros. C'était le super placement pour tous les Français qui voulaient mettre leur argent en sécurité dans des petites paires de famille. On est monté à 80, c'était la première capi du CAC à un moment. Tombé à 8,80 là. C'est le moment de nationaliser EDF, vous croyez ? Sachant que 84%, c'est presque si c'était le cas. Mais...
Alors, déjà, il faut préciser que l'annonce d'Agnès Pannier-Runacher reprend finalement ce qui est dans le programme d'Emmanuel Macron et qu'on avait déjà dans le projet Hercule, souvenez-vous, la création de l'entité EDF Bleu, qui contient le nucléaire, en fait, c'était déjà les fondements de ce projet-là. Donc rien de nouveau en la matière. C'est aggravé en effet par les tensions nouvelles sur le nucléaire, le problème du grand carénage, les centrales habituellement mise à l'arrêt au printemps, mais qu'on ressort comme argument supplémentaire. Et là encore, Terra Nova s'illustre puisque ils viennent de sortir une note d'Eli Cohen sur le sujet. Hein. Et il faut faire attention quand on parle de nationalisation d'EDF, parce que il y a encore une confusion dans l'esprit des gens. Beaucoup croient toujours que EDF et GDF, c'est une seule et même chose. Même ah si, je vous assure. Je vous assure que...
Oui, des gens qui parlent encore en ancien franc.
Et donc, c'est une partie du groupe EDF, parce que tout le reste est EDF Énergie Renouvelable. RTE pour le transport, Enedis pour la distribution, ne sont absolument pas concernés par ce projet-là.
L'idée, c'est de savoir si les 16% qui sont en bourse sortent de la bourse rachetée par l'État.
C'est la maison mère, quand même, EDF.
Oui, mais c'est pas Enedis, c'est pas la distribution, c'est pas le transport.
Oui, mais
c'est là que, en fait, c'est.
Vraiment,
c'est
je comprends pas.
Non, là, je comprends pas la ligne, parce que je reprends la question. Est-ce que l'État doit sortir EDF du marché financier où il y a 16% d'actions EDF cotées pour les racheter parce que c'est pas cher et reprendre intégralement
non,
le contrôle de l'entreprise?
Non, c'est pas parce que c'est pas cher.
Parce que le coût du nucléaire aujourd'hui est devenu tellement insupportable qu'il pourrait y avoir un actif disponible inférieur au passif exigible, ce qui est un signal de défaillance de l'entreprise. On n'en est pas encore là, mais il y a en effet des tensions très fortes sur le groupe qui ne sont pas absorbées par les remontées de dividendes des filiales et aujourd'hui il y a une forte tension.
On
est dans le système privatisation des profits et les pertes sont nationalisées. On est tout à fait dans cette logique.
De toute façon, si c'est nationalisé, ce sera nationalisé à la valeur actualisée des flux futurs. Donc et personne ne sera arnaqué. Ceux qui se sont fait arnaquer, c'est ceux qui étaient co-actionnaires de l'État.
Mais ils ne
il y a une règle de base dans l'investissement patrimonial,
ne
jamais être co-actionnaire de l'État. C'est un suicide. On se fait toujours
Philippe,
avoir.
Ils ne peuvent pas nationaliser ce qui est dans le secteur concurrentiel. Ils ne peuvent pas nationaliser les parties qui sont ouvertes.
Bah non, mais ils ne vont pas nationaliser ce qui est en dessous. Ils seront juste majoritaires. Ils seront juste majoritaires dans ces éléments.
Quand on regarde, il faudrait que je regarde la structure
on voit que cette boîte, compte tenu des contraintes qu'il y a sur elle, n'est pas confortable en bourse. Et donc, il est assez logique de l'en retirer. Très honnêtement, il aurait été plus logique de ne jamais l'y mettre. Mais maintenant qu'elle y est, il est assez logique sans doute de l'en retirer. Moi, la chose qui m'ennuie dans tout ça, c'est que le marché était le dernier petit aiguillon pour que ça se réforme.
Oui, mais enfin, vous voyez bien que EDF, l'État a mis la main sur EDF pour subventionner une partie des prix d'électricité.
Non, mais c'est
contrat
est
forcé.
On oblige
EDF à perdre de l'argent.
La réalité, c'est que c'est l'État.
Même Enercop demande à avoir accès à l'AREN. Demande à avoir accès à l'AREN.
C'est le tarif historique du nucléaire. Bon, on a fini malheureusement. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas question de ressusciter le projet Hercule, qui consistait à mettre. L'État va assumer ce qui coûte et tout ce qu'il rapporte serait coté à hauteur de 30%. On n'en est pas là. Pour l'instant, c'est de savoir si les 16% actuellement en bourse eh bien, doivent être repris par l'État français, auquel cas ce serait une entreprise 100% détenue par l'État. Alors après, le statut des filiales, vous en savez plus que moi, Nadine, je vais regarder, je suis un peu...
Prochaine fois.
Bon, prochaine fois. On a fini. C'était Nadine Levrato aujourd'hui, c'est Philippe Manière, Sylvain Aurébi. Rendez-vous, oui, demain, 9h.